vous les connaissez par leur travail, pour avoir grâce à eux découvert en Mauritanie, au sud du Brésil, ce lien entre les communautés traditionnelles et les dauphins. Vous avez, par exemple, vu, et d'ailleurs pouvez voir sur Internet, les dauphins cueilleurs de vie. Vous avez découvert aussi le massacre des globicéphales aux îles Féroé, mais également les manikas, ces femmes et hommes du sud de la Thaïlande, qui vivent encore, mais pour combien de temps, en symbiose avec la forêt et donc avec notre planète. François-Xavier et Catherine Pelletier, lui ethnologue, tous les deux réalisateurs. Petite séquence du côté de l'entrée des artistes avec Catherine Pelletier.
Moi, je suis une fille et petite fille de marin. J'ai de l'eau salée dans les veines. Mon père était capitaine au Longbourg. Ma grand-mère était marchande de poissons. Donc, ma mère était d'une famille pauvre et elle est tombée amoureuse d'un beau capitaine qui était capitaine au Longbourg. Lui non plus, pas très aisé, mais il avait hérité d'une belle maison à La Rochelle. Tous les 9 enfants, on a profité d'un espace incroyable en plein centre de La Rochelle. J'ai été bercée par la mère avec un père absent, très présent. Quand il revenait à l'époque tous les 9 mois, donc comme par hasard, on est 9 enfants à la maison. Il était amoureux de sa femme, je pense, j'en suis sûre même, et puis surtout de la mère. Et en fait, quand elle était en retraite, la mort l'a vite rattrapée. J'en ai voulu un petit peu à la mère pendant longtemps parce que c'est elle qui avait pris mon père. Moi, j'avais toujours eu envie de faire des études de cinéma, script, coordonné. J'étais un petit peu chef de projet, un petit peu par rapport à un frère jumeau que j'ai. C'est moi qui décidais un petit peu pour lui, la logistique, tout ça, ça m'a plaisé. Le cinéma, c'était une sortie que entre frères et sœurs, on faisait beaucoup, et donc que j'ai fait des études de script à Paris. Et par un ami commun, j'ai vu un jour arriver François qui rentrait de Mauritanie après avoir passé 16 mois chez Imragen. Il était barbu, chevelu, craché par terre, il marchait pieds nus. Le coup de foot, quoi, comme on voit au cinéma. Lui, c'était un marin aussi. La mer m'est revenue par François et c'est vrai que ça a été un coup de foudre et une renaissance, en fait. J'ai redécouvert la mer par rapport à cet amour pour François. La mer est dans tous nos reportages. Nos enfants s'appellent Delphine et Noé, donc c'est pas pour rien non plus, c'est quelque chose que je porte en moi définitivement.
La mer pour point de repère et la maison familiale à la Cadet Roussel pour point d'ancrage.
C'était une grande maison, une très belle maison d'ailleurs du 18e siècle avec un escalier en pierre. C'est mon père qui avait hérité de ça. Et en fait, comme ils n'avaient pas un sou, son oncle était commissaire-priseur. Et à l'intérieur, il y avait énormément, énormément de meubles, de belles vaisselles. Pour payer les droits d'héritage, mes parents ont vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'époque, il y avait les Américains ont tout racheté. Des lustres pas possibles, des collections de timbres. Et il y avait notamment tout le matériel photographique, des plaques et avec des bacs en porcelaine. Ils ont tout vendu pour payer les droits de succession. Nous, on a vécu dans une maison, c'était un château. Il y avait des trous dans la toiture, chauffage au charbon qu'on montait à la main dans des seaux dans la cuisine, mais c'était merveilleux. En plus, il y avait un jardin de 500 mètres carrés. Je faisais du vélo. Moi, j'avais l'impression, par rapport aux copines d'école, de vivre dans un château. Je faisais du vélo dans mon jardin. C'était quelque chose d'incroyable. Il y avait un bureau, toute une bibliothèque avec des boiseries. Et il y avait une collection de buffons. Au décès de mes parents, j'avais toujours dit que je voulais récupérer cette collection de buffons. Paradoxe, j'ai récupéré les buffons et le seul tome qui manque, ce sont les mammifères marins. Alors que depuis tout le temps, on travaille sur les mammifères marins et c'est vrai que j'ai toujours en quête de retrouver cet exemplaire dans cette collection.
Selon le principe naturel, les chiens ne font pas des chats, et bien Cadet Roussel, toujours.
On a acheté un vieux presbytère à une quarantaine de kilomètres de La Rochelle. Ça fait 28 ans qu'on y est. On a un petit peu oublié de faire les travaux parce que on préfère effectivement investir dans le matériel de tournage plutôt que de refaire la toiture ou les huisseries. Vu l'augmentation des tarifs de pétrole, depuis 3 ans, on se chauffe plus. On bricole entre la cheminée et les doudounes. Donc, ça fait le 3e hiver qu'on passe en chauffage central. C'est costaud quand même.
C'est un peu frais. Surtout, le spectateur que nous sommes ne s'en doute pas pour rester assis à sa table de montage. Les chiens et les hirondelles, eux, s'en trouvent Fortez.
On aime laisser les animaux libres. On a des chiens, naturellement. On a des petites souris qui viennent nous tenir compagnie pendant qu'on regarde la télévision. Et l'autre jour, malheureusement, elles ont fait quelque chose qu'elles n'auraient jamais dû faire. Elles se sont attaquées à mes chocolats de Noël. Et là, j'ai craqué. J'ai sorti les tapettes parce que ça, elles n'ont pas le droit de toucher à mes chocolats. Par contre, les hirondelles, dans la cuisine, ça fait le 5e printemps qu'elles viennent nicher et pondre. Vous prenez le petit déjeuner avec les hirondelles au-dessus. Donc, on a mis un petit carton en dessous pour les déjections. Mais c'est franchement, c'est incroyable. On voit l'accouplement. Quand les œufs sortent, quand la maman vient leur donner à manger, leur apprend à voler, les engueulades, visiblement, des fois, il y a même des problèmes de couple, ils viennent à 3, enfin, on imagine un petit peu. Nous, on se régale, et j'avoue, quand les amis ou des gens un peu extérieurs viennent, ils sont quand même un petit peu épatés. Le seul petit problème, c'est qu'effectivement, ça sent mauvais, mais bon, on laisse définitivement la porte ouverte, ou bien on enlève une vitre pour qu'elle passe. Quand on sait que les hirondelles ont de plus en plus de mal à trouver des endroits pour nicher, c'est un devoir public, citoyen.
Les odeurs, d'accord, oui, mais balayées par le vent de la liberté.
Oui, c'est vrai, je me sens vraiment une fille de La Rochelle. Bien que je déplore un peu que ça ne sente plus le poisson à La Rochelle, c'est vrai que le port a été déplacé à la Palisse, c'est devenu un petit peu une ville touristique, c'est vrai qu'elle a des atouts, mais je regrette l'activité de pêche de La Rochelle. Puis la Charente-Maritime, ça correspond très certainement à mon caractère. La Rochelle, belle et rebelle, comme dirait mon pote plongeur, vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche.
Voilà pour le cadre de vie et de travail, mais le champ d'action de François-Xavier et de Catherine Pelletier, depuis 40 ans, c'est le monde qu'ils parcourent pour nous le montrer, non pas comme on voudrait nous le faire croire, mais bien tel qu'il est.
On est allé partout où il y avait des relations entre l'homme et les mammifères marins, particulièrement les dauphins. On a beaucoup travaillé au Pakistan, sur un dauphin d'eau douce, en Indonésie, dans un village où ils chassent le cachalot au harpon. François a découvert à Bornéo une nouvelle espèce de dauphin d'eau douce. Et puis on travaille aussi beaucoup au Brésil, tant sur les populations amazoniennes de ribérines ou d'indiens que dans le sud du Brésil où les pêcheurs pêchent avec l'aide des dauphins. François a beaucoup travaillé en Mauritanie où il y a une pêche avec l'aide des dauphins. Et puis les Féroé où malheureusement c'est une chasse terrible, il tue, je dirais pas pour le plaisir, mais uniquement le goût des globicéphales, donc sur lequel on a encore fait un documentaire l'an dernier. Puis des endroits, on est parti un an, nous, sur l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre, étudier le dauphin d'eau douce. Il y a maintenant de ça 35 ans, on est parti en estafette. C'était à l'époque où on pouvait traverser l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh. Ça a été des émotions très fortes et des rencontres vraiment fantastiques. Cette approche par rapport au dauphin nous permet de connaître l'homme et à travers l'homme, on connaît le dauphin. On a vraiment à cœur d'être un peu une interface entre le grand public et les scientifiques.
Le scientifique et le quidam qui habite la planète, chacun a un savoir qui, en soi, fait autorité, mais sans avoir précisément cette autorité qui oblige, d'où l'extrême liberté voulue dans le choix des sujets.
François a été dans ses reportages déjà deux fois en prison. Il a été mis en prison aux îles Féroé et il a été mis en prison aussi au Brésil. C'est pas du tout le même travail qu'un reporter de guerre avec un danger immédiat, mais à partir du moment où dans le sud du Brésil, vous commencez à découvrir que derrière la protection animale, il y a un gros trafic immobilier de récupération de terres. On va là où est le problème, donc on est au cœur du problème. Et l'autre chose qui est très, très importante, c'est donner la parole à ceux qui l'ont pas, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les peuples autochtones, avoir leur vérité à eux et surtout par l'image transmettre ce qu'ils ressentent. On dit souvent qu'il faut connaître pour aimer, mais c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Il faut aimer pour avoir envie de connaître. Nous, les gens d'image, on a une responsabilité parce qu'on transmet l'information. La vérité, c'est prétentieux, mais d'être authentique et d'être vrai. François est un homme d'image et quand il était jeune, il peignait. Il a toujours eu cette envie de montrer des Indiens ou des manis avec autant d'amour qu'on peut filmer une actrice. Parce que pour nous, il le valent bien.
Parmi nos congénères, les maniques, justement, à peine 300 à vivre de façon nomade et dans la forêt en Thaïlande.
On est rentré en contact avec les manis par un ami ethnobotaniste. Il nous disait, il faut absolument que vous veniez rencontrer les manis parce que c'est un peuple originel. Une fois, deux fois, il insistait. On a réussi à dégoter un minimum de budget. Et là, effectivement, il a découvert un peuple étonnant. C'est vraiment un peuple originel. Ils vivent comme on pouvait vivre il y a 10 000 ans. Tous les défauts que peut avoir l'homme moderne, ils ne l'ont pas. Ils savent pas mentir. Dans la nature, il faut être vrai. Et si vous mentez, c'est pas possible. Ils se resituent comme on devrait être. C'est-à-dire des êtres vivants dans la nature, au même titre qu'un animal. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont des singes sans queue. Ils croient aux êtres de la forêt, donc ils sont animistes naturellement. Ils sont bien plus riches que nous, surtout le côté spirituel. Eux, ils sont 300 en Thaïlande à être entourés par un monde moderne. Ils sont de plus en plus oppressés. Mais connaissant maintenant le monde moderne, ils n'ont toujours pas envie de nous ressembler. Mais ils ne sont pas hostiles non plus. Quand, par exemple, vous leur donnez un paquet de bonbons, le papier, ils vont le jeter. Parce qu'ils pensent que c'est comme les feuilles de banane, que ça va, en se détruisant, ça va former des choses positives pour la Terre. On les a obligés à mettre des vêtements. Ils savent pas ce que c'est que de laver des vêtements. Ça leur donne des maladies de peau. Enfin, c'est plein de choses comme ça dont on maîtrise pas l'effet papillon que ça a sur eux, quoi. Et surtout dans leur tête. Il y a les évangélistes qui essaient de les convertir. Le ministère de l'Éducation enlève les enfants pour les éduquer. Exactement ce qu'ils faisaient en Australie avec les aborigènes. Notre expérience, nos bêtises ne servent à rien. Eux, ils ne tuent pas pour le plaisir. Ils iraient pas tuer deux singes s'ils en ont pas besoin de deux. C'est quand même une grosse différence avec nous. Ils n'ont pas cette notion de gaspillage et de surconsommation. C'est pas naturel.
Réalité dramatique, la construction du barrage de Belo Monte au Brésil, au sacrifice complet des populations qui vivent là.
François vient de passer 4 mois et demi en Amazonie, sur la Volta do Xingu, la région impactée par le barrage de Belo Monte. Quand il est revenu, il m'a dit « j'ai filmé un crime ». Il est revenu complètement bouleversé, encore plus combatif qu'avant. Quand on est cinéaste et qu'on voit des horreurs comme ça, on se dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et heureusement qu'on a la possibilité de s'exprimer par l'image. Enfin, nous, nos films, on les conçoit comme des armes de connaissance. Et il n'y a que l'émotion qui peut faire changer les gens. Les notions scientifiques et rationnelles, ça ne les fait pas changer. Il faut les émouvoir. Ce que l'on veut à travers nos images, c'est que les gens puissent ressentir ce que les gens qui vont vivre ça. Parce que la plupart de tous ceux qui travaillent pour le barrage, c'est pas des mauvaises personnes. Ils ont oublié de réfléchir, quoi. Donc, si on peut les faire réfléchir, si on leur démontre, et moi je suis persuadé que le film que l'on va faire va démontrer ça. Et surtout au niveau des Brésiliens, ils ont su mettre fin à une dictature, destituer des présidents, donc ils sauront faire arrêter le barrage.
Les chemins de traverse, la voie royale, pour dire la vérité, car attention à ce qui est fait à autrui, faute de s'y opposer, il est un jour, toujours, fait à vous-même. C'est au prix du chauffage de leur maison d'hiver que Catherine et François-Xavier Pelletier vont chercher cette vérité.